Chronique de confinement. Le masque et la prune. Une capsule sonore qui donne la parole aux bénévoles de prune depuis chez eux. Récit, billet d'humeur, création. Retrouve le quotidien de celles et ceux pour qui le confinement se raconte.
Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92 FM, il est 18h et c'est l'heure du masque et de la prune. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne en différé depuis mon salon. Et comme d'habitude, on commence avec les éphémérides de John.
Les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super, les éphémérides.
Alors que s'est-il passé un 20 mai ? On commence le 20 mai 526, un tremblement de terre détruit Antioche et fait 250 000 morts. On saute 13 siècles et le 20 mai 1802, Napoléon Bonaparte maintient l'esclavage dans les territoires restitués à la France par le traité d'Amiens, dont la Martinique, qui n'avait pas appliqué la loi d'abolition rendant de fait l'esclavage légal. 1873, Lévi-Strauss et Jacob Davis obtiennent le brevet pour le blue jean avec rivé. Aviation, le 20 mai 1927, Charles Lindbergh décolle de New York pour tenter la première traversée de l'Atlantique en monomoteur et sans escale. Aviation toujours 5 ans plus tard, en 1932, la pilote américaine Emilia Earhart décolle pour devenir la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire. 1983, la revue américaine Science publie la découverte par des chercheurs français du VIH. Passons aux naissances, et aujourd'hui ça va être difficile car chacun d'eux mériterait une émission spéciale. On commence le 20 mai 1799 avec celui d'Honoré de Balzac, grand romancier à qui l'on doit 91 romans. Il décrivait la montée du capitalisme et il serait bon de relire en ce moment ses œuvres qui voient la résurgence de la bourgeoisie de rentiers quand ces derniers nous laissent mourir au nom de la sacro-sainte croissance. On passe en 1908 pour la naissance de James Stewart, reconnu comme l'un des plus grands acteurs de tous les temps. Pour sa filmographie, on peut citer La conquête de l'Ouest, L'homme qui tua Liberty Valance, L'homme qui en savait trop, Sueur froide, La vie est belle ou Fenêtre sur cour. Le 20 mai 1944, voyait le jour Joe Cocker, chanteur de blues légendaire, une carrière incroyable. Il jouera à Woodstock et on lui doit You Are So Beautiful, You Can Leave Your Hat On ou Unchain My Heart, musique. Et le 20 mai 1946, c'est l'anniversaire de Cher, avec près de 40 ans de carrière qu'il est impossible de résumer. Alors Cher, début 60, c'est ça. They say we're young and we don't know, we won't find out until we grow. Well, I don't know, well that's true, cause you got me, baby, I got you. I got you, babe. I got you, babe. Et fin 90, c'est plutôt ça. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say. I really don't think you're strong enough now. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say. I really don't think you're strong. Et pour les décès, le 20 mai 1506, c'est celui de Christophe Colomb, et en 1834, celui de Gilbert du Motier de Lafayette. Et on termine avec le décès le 20 mai 1896 de Clara Wieck, compositrice romantique qui inspira énormément ses successeurs. Elle épousera Robert Schumann, elle composa surtout durant sa jeunesse, car elle sera victime d'un énorme handicap pour son époque, celui d'être une femme. Elle finira totalement désabusée, elle écrira même « Il fut un temps où je croyais posséder un talent créateur, mais je suis revenu de cette idée, une femme ne doit pas prétendre composer. Aucune encore n'a été capable de le faire, pourquoi serais-je une exception? Il serait arrogant de croire cela, c'est une impression que seul mon père m'a autrefois donnée. » Et comme cela me désole plus au point, je vous invite à écouter avec moi l'introduction du troisième mouvement de l'opus numéro 7 de son concerto pour piano en La mineur. Des éphémérides beaucoup trop longues ce soir, il est temps de passer à notre sommaire. Nous aurons l'interview de Régis Contreau de Nantes en commun, une interview proposée par Emma et Louise. Le Labo des Savoirs nous rejoint dans l'émission avec Capsule de Science, de quoi épancher votre besoin de savoir. Ce soir, ils nous parleront de l'oisin, une bizarrerie à plumes. Sans oublier la chronique de Johan Bertetto, Les gens non essentiels. C'est parti tout de suite!
Le masque et la prune.
Salut tout le monde, salut Prune, je m'appelle Johan Bertetto et je suis un non-essentiel. Eh ouais, parce que comme 80% de la population active, on m'a dit « Bon écoute Johan, t'es gentil, mais reste à la maison, laisse ceux qui ont un vrai boulot tranquille. » Et moi, on m'a même pas demandé de télétravailler. Je me suis vraiment pris un gros coup d'échelle sociale dans la tronche. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les essentiels, il y a les non-essentiels, et en dessous, il y a ceux qui essayent de les faire rire. Il y a qu'à voir Macron quand il a parlé de la culture. Là, en bras de chemise, ébouriffé, entre deux réunions, là, à partir dans des délires complets. Moi, je vois bien le conseiller présidentiel qui est arrivé. Qui dit « Bon, écoutez, chef, on a géré les hôpitaux, on a parlé pour les écoles, on a parlé pour l'industrie, mais les troubadours, ils sont encore en train de gueuler, ce serait bien de leur dire un mot. Hein, mais vite fait, pas besoin de leur préparer un discours ou d'essayer d'être cohérent, ça reste des intermittents, on va pas se prendre la tête non plus, quoi. Et on peut le faire maintenant, chef, hein. Non, non, vous changez pas, ça sert à rien. On va parler à des gens qui portent des sarouels. Et François, viens filmer avec ton téléphone, ça sera très bien. Ça sert à rien de faire des sous-titres, de toute façon, ils savent pas lire. Non, vraiment, la culture... C'est la 34e roue du carrosse en ce moment, hein. Et moi, je le comprends. C'est normal, t'imagines un peu, on aurait inversé. Genre, les caissières, les livreurs, les livreuses, les pompiers, allez tous à la maison, confinés, et hop, les humoristes, au front, au boulot, la tronche des gens. Genre, ah, j'ai faim, ma maison brûle, je vais crever, mais par contre, qu'est-ce qu'on se marre, quoi. T'imagines qu'est-ce qu'on aurait fait, quoi. Et franchement, moi, pendant 2 mois, je les ai enviés, les essentiels. Ouais, toutes ces infirmières, ces infirmiers, les pompières, tout le monde. Alors, je compte pas la police, hein, parce que s'ils avaient pas passé tout l'été dernier à gazer des infirmières, n'en seraient pas là. Mais bon, bref. Eh ben, eux, le matin, en se levant, ils savaient qu'ils tenaient la civilisation à bout de bras, tu vois. Et heureusement, d'ailleurs, qu'on les paye une misère, parce que sinon, ils auraient pris la grosse tête. Mais bon, j'avais envie d'être à leur place, tu vois. Et heureusement, j'allumais la Xbox et ça passait très vite. Mais bon, quand même. Et je trouve ça bien que pour remercier les soignants, ils leur donnent une médaille. Tu vois, parce que, bon, eux, ils veulent des moyens, ils veulent qu'on embauche plus de gens, ils veulent un meilleur salaire, mais ça vaut pas une jolie médaille pour aller frimer en faisant ses courses au Secours catholique, hein. Et ça y est, maintenant, on peut sortir. On peut sortir, et d'ailleurs, je dois faire mon mea culpa, parce que j'ai fait partie de ces gens qui sont allés prendre l'apéro au bord de l'Erdre. Voilà, et bah du coup, ils ont interdit les rassemblements, hein, mais genre les mecs, ils s'y attendaient pas. Genre, on les a prévenus, ça faisait quand même 2 mois qu'on picolait en visio tous les soirs, et ils s'attendaient à quoi pour la sortie? Qu'on aille à la bibliothèque? Elle est fermée, la bibliothèque, hein. Comment ils ont pas pu prévoir une parade, faire, je sais pas, des zones, des trucs comme ça? Je veux dire, on est français, on n'est pas si compliqué à prévoir, hein. On picole et on bouffe, tu vois. Bien sûr que ça allait être blindé, hein. Et encore, que personne n'ait ramené un barbecue et ses merguez, moi je trouve que c'est un miracle. Et bah du coup, ça n'a pas loupé, hein. Maintenant ils ont interdit les pique-niques, la consommation d'alcool interdite entre midi et 7h du matin. Pourquoi? Je veux dire, ils auraient pu faire toute la journée, je veux dire, c'est pareil. Je veux dire, est-ce que le lobby des punks à chiens qui boivent des 8-6 à 10h du mat a fait pression? Je pose la question. Et puis on va les picoler où maintenant? Je veux dire, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de solutions, alors s'ils en enlèvent, Moi, je peux pas accueillir tout le monde dans mon salon, hein, c'est pas possible. Et d'ailleurs, faut que je vous laisse, faut que j'aille fabriquer des masques. C'était Yoann Bertetto et je vous dis à la semaine prochaine sur Prune 92 FM.
Le masque et la prune.
Aujourd'hui, on vous parle mouvement citoyen, écologiste et participatif. On vous parle donc un peu de politique et on essaye d'éviter ce sujet très récurrent en ce moment, celui du Covid-19. Mais évidemment, le coronavirus est quand même le cœur de l'actu. Donc on compte bien aborder le sujet aujourd'hui avec Régis du parti politique Nantes en commun. Nantes en commun est un parti politique d'initiative locale qui regroupe des citoyens qui souhaitent s'impliquer dans la gestion de leur ville. Le maître mot est la réflexion et il tend vers un mouvement de réappropriation de Nantes par ses habitantes et ses habitants. Par réappropriation de la ville de Nantes, Nantes en commun sous-entend se pencher sur les problématiques citoyennes. On peut d'ailleurs lire sur leur site, je cite, « Comment peut-on bien vivre à Nantes sans être riche ?» ou encore « Comment on acquiert et transmet des savoir-faire » Répondre à ces questions est un enjeu de citoyen de taille, surtout en pleine crise sanitaire où un retour à une vie simple et sans artifice s'ancre de plus en plus dans la société. On a vu beaucoup d'initiatives solidaires se multiplier pendant le confinement à Nantes, des habitudes de vie se réinventer. C'est aussi un moyen pour vous d'agir en répondant aux questions des citoyens pendant cette période assez floue. Et ça a été aussi un moyen de vous mobiliser et mettre davantage en lumière vos revendications en matière sociale. Ce qui anime ce parti, c'est surtout le souhait d'une ville accueillante et inclusive dont les valeurs écologiques et sociales sont en première ligne. Ce mouvement est fondé sur l'approche des communs. Mais qu'est-ce que tout cela signifie vraiment? Réponse tout de suite avec Régis. Alors, vous venez d'entendre ma définition de Nantes en commun, mais ce serait plus intéressant d'avoir la vôtre. Alors, qu'est-ce que c'est que Nantes en commun pour vous?
Bonjour et merci beaucoup pour cette belle introduction. Merci. Alors déjà, je commencerai à peut-être préciser quelque chose, une différence qu'on aime bien rappeler. On n'est pas un parti politique dans le sens où on n'adhère pas en Nantes en commun, mais il y a un ensemble de personnes qui participent au mouvement qui est Nantes en commun, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui rassemble des habitantes et des habitants qui veulent se reproprier la ville et leur vie, dans le sens d'une transformation profonde de Nantes et de la société. Notre objectif pour nous, c'est de faire de Nantes une ville de l'écologie populaire, une ville qui apporte des réponses collectives et non marchandes à nos besoins essentiels en réparant les injustices sociales et écologiques. Si je devais résumer, en fait, c'est une ville qui est faite par et pour ses habitants. Nantes en commun a été initié en janvier 2019 et nous avons organisé à peu près 400 rencontres qui ont réuni 3000 personnes sur des enquêtes qui recouvraient l'ensemble des problématiques de la société, l'énergie, la santé, les rapports de domination qui pouvaient exister au sein de notre société. Et du coup, on a pris la décision au mois de septembre dernier de porter une liste pour les élections municipales. Nous avons recueilli 9% des voix. Mais en fait, c'est vraiment pas notre objectif premier. Notre objectif premier, c'est de faire de la politique du quotidien. Elle se fait pour nous tous les jours et en dehors des institutions. Et c'est pour ça qu'on continue à agir aujourd'hui, même si cette parenthèse des élections municipales est en cours et que pour l'instant, il n'est pour l'instant pas question d'élection à nouveau.
Ok, super. Bah, vous avez répondu à pas mal de questions au final. Et du coup, quelles sont les principales mesures au moment des élections et donc que Nantes en commun en fait souhaiterait mettre en place pour la ville?
Tu veux dire en dehors des élections, ce qu'on voudrait faire maintenant ou ce qu'on avait en tête au moment des élections?
On peut peut-être partir sur au moment des élections et en fait la question viendra après, je pense, dans le déroulé.
D'accord.
Voilà.
Alors, au moment des élections municipales, on avait un ensemble de propositions qui ont été portées et qui viennent toutes des enquêtes qu'on a pu réaliser. Alors, te résumer en quelques mots tout un programme politique, oui. c'est quand même assez long, mais j'en citerai quelques-unes qui sont emblématiques. Et qui du coup on est en train d'essayer de concrétiser maintenant. Donc c'est intéressant de voir le parallèle et de voir la différence de la façon dont on peut les concrétiser. Une des premières, c'était quand même Nantes en commun, c'est une liste qui se revendique comme étant citoyenne, c'est-à-dire qu'il y a pour ambition de faire évoluer la façon dont nos institutions fonctionnent, dont notre démocratie fonctionne, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas des institutions qui soient toutes puissantes et investies de tous les pouvoirs, et qu'en gros on va aux élections une fois tous les 5 ans ou tous les 7 ans ou 6 ans suivant les modes de scrutin, et après terminé on n'a plus notre mot à dire. Non, ce qu'on veut faire chez Nantes en commun, c'est que la politique elle se fasse au quotidien, dans chaque coin de rue et surtout dans chaque quartier, et c'est pour ça qu'on avait imaginé monter ce qu'on appelle des assemblées de quartier, qui sont des assemblées qui sont indépendantes, qui sont une sorte de contre-pouvoir, qui serait réellement doté d'un budget et qui pourrait proposer et là où les habitants pourraient proposer des projets, alors soit des choses très locales, genre je veux mettre en place un espace partagé, un jardin partagé dans ma rue, et bien voilà, je le propose et puis je peux rentrer en dialogue avec les services municipaux pour voir si c'est possible ou pas de le faire, parce qu'ils savent très bien aussi finalement ce qui est faisable ou pas. Et ces assemblées de quartier serait coordonnée par une assemblée des assemblées dotée d'un budget, à peu près 10% du budget d'investissement à Nantes, 10 millions d'euros, et qui du coup permettrait de concrétiser les projets, et la municipalité serait dans ce cas-là une sorte, enfin appliquerait finalement les décisions de ces des assemblées avec un garde-fou qui serait une charte qui serait mise en place de façon à ce qu'il n'y ait pas des projets, enfin qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui en sorte non plus, qu'il soit des choses climaticides ou racistes ou je ne sais pas. Donc c'était une des idées clés qu'on a défendues pendant la campagne, mais il y en a beaucoup d'autres. De manière générale, on avait un programme autour de l'écologie populaire, donc une écologie qui soit accessible à toutes et tous et faite par toutes et tous, en commençant par celles et ceux qui sont le plus dans le besoin.
D'accord. Ouais, c'est intéressant cette proximité en fait avec les habitants nantais. C'est ce que vous semblez mettre en valeur en fait. Enfin,
c'est ce qui nous tient à cœur effectivement. Depuis le début, nous sommes un mouvement qui est proche des habitants et des habitants. Et donc du coup on a essayé d'être à l'écoute. Nous sommes nous-mêmes des citoyennes et des citoyens et on veut le rester. Finalement, on veut absolument pas faire de la politique un métier, mais vraiment quelque chose qu'on vit au jour le jour.
D'accord. Et donc là, pendant le confinement, j'ai vu sur Facebook, tous les mercredis, vous organisiez des visio-apéros. Et finalement, en quoi ça consistait? Et est-ce que c'est toujours d'actualité, là, en post-confinement?
Oui, on continue à les faire, ces visio-apéros. Oui. En gros, une fois par semaine, on le faisait déjà pendant la période de campagne, on organise un apéro en ligne où on discute de manière assez ouverte, on présente ce qu'est Nantes en commun, qu'est-ce qu'on est devenu, et ça permet aux personnes qui s'intéressent au mouvement d'avoir une première présentation qu'on échange ensemble, et puis on aime bien en général y ajouter une petite touche de concret, genre d'après vous qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour la suite, comment est-ce qu'on fait pour pas recommettre les mêmes erreurs qui nous ont conduit à cette crise aujourd'hui. On a été amené par exemple à parler aussi de revenus universels, choses comme ça. Et puis de projets concrets, là par exemple on est en train de la lancer, là je parlais des assemblées de quartier tout à l'heure, on est en train de lancer une assemblée nantaise citoyenne de transformation pour justement concrétiser ce projet d'assemblée de quartier et faire en sorte que cette assemblée puisse être un lieu où on réfléchit à l'urgence, mais aussi on réfléchit à ce qu'on appelle communément le monde d'après, même si j'aime pas trop cette expression. Et on a demandé à Johanna Roland d'avoir les beaux-arts pour ça, on attend ça. D'ailleurs, toujours sa réponse.
Ah ben, c'était l'une de mes questions, du coup. Et ben, donc c'est parfait, vous y avez répondu. Et aussi, donc pendant cette période de confinement, alors vous avez lancé, enfin vous avez demandé à la ville de Nantes d'assurer un repas par jour aux enfants par le biais des cantines scolaires. Est-ce que cette démarche a abouti?
Alors, oui, elle a été mise en œuvre. Alors, Effectivement, nous avons proposé ça et on a salué le fait que la mairie ait mis ça en œuvre. Donc, oui. Et donc, finalement, enfin, je pense que le fait qu'on ait participé aux élections, bah, permet qu'on ait une voix visible. Et ça serait présomptueux de dire que c'est que par notre action que la municipalité a mis en œuvre ce repas. C'est la réouverture des cantines scolaires. Mais ça participe clairement, je pense, à l'expression citoyenne pour que des choses soient mises en place actuellement.
Ok. Et du coup, bah, pendant cette période-là de confinement, est-ce que vous avez mené d'autres projets
Ouais. J'en ai plusieurs en tête. Donc cette assemblée nantaise-là, donc une assemblée citoyenne pour parler et pour qui soit vraiment constituante pour réfléchir au monde d'après. On travaille également sur le fournisseur d'énergie locale, qui était une des propositions, pareil, de la campagne de Nantes en commun. Un fournisseur d'énergie, c'est en fait l'organisme qui fait le lien entre la production d'énergie et la consommation. Et donc notre objectif avec Nantes en commun, c'était de se réapproprier l'énergie en disposant nous-mêmes de nos propres moyens de production, via le fournisseur, la proposer à l'ensemble des personnes de Nantes et sa région proche, à un tarif qui soit social et écologique, et enfin se servir des revenus pour pouvoir réduire la consommation d'énergie des bâtiments. Et donc être actif sur la sobriété énergétique. Et donc c'était un fournisseur municipal. Là, en l'occurrence, n'ayant pas la mairie, on est en train de monter uniquement la structure du fournisseur, donc sans forcément nos moyens de production en propre, mais l'objectif est toujours le même. Donc c'est un projet qui est en train de se concrétiser. On va bientôt faire une enquête d'intérêt public pour un peu savoir qui serait intéressé pour choisir ce fournisseur d'énergie, donc une énergie qui serait produite localement de manière la plus propre possible. Donc c'est un des exemples de projets sur lesquels on travaille. C'est pas le seul, il y en a d'autres.
D'accord. Et autre chose, donc là, malgré le contexte assez particulier du coronavirus et de la distanciation sociale, est-ce que vous organisez ou aller organiser des rencontres. Donc, vous avez l'habitude d'organiser des enquêtes, des ciné-débats et d'autres réunions, si j'ai bien compris. Et donc, est-ce qu'il y en a qui vont s'organiser dans les mois à venir?
Alors, pour l'instant, on fait tout en ligne.
Ouais, c'est ça.
On n'a pas déconfiné nos réunions.
Ouais.
On est en train d'en discuter.
Mmh.
Il est possible qu'entre nous, comme on les fonctionne de manière très auto-organisée, de manière autonome, des petits groupes de travail de quelques personnes se réunissent physiquement en respectant les consignes de sécurité sanitaire. Pour des réunions publiques, on n'y est pas encore, on y réfléchit, mais on n'en a pas encore pris la décision. Après, ça pourra peut-être venir dans le courant du mois de juin en fonction de l'évolution des choses.
Oui.
Mais en tout cas, le truc, c'est que malgré tout, la façon dont on fonctionne, on fonctionne beaucoup par le consentement, par la discussion collective, par la prise de décision collective.
Mm.
On va faire les choses en ligne, c'est bien, mais il y a tout le non-verbal quand même quand on fait des réunions physiques qui est important. Donc dès que ça sera possible, on le fera. Pour l'instant, on ne s'est pas encore lancé.
C'est sûr, bon d'accord. Et en tout cas, là, l'interview touche à sa fin. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose de particulier?
J'ai envie de dire qu'on monte d'autres choses aussi. On est notamment en recherche d'un local pour un café associatif qu'on est en train de monter. Donc, s'il y a des personnes dans l'auditoire de Prune qui est au courant d'un local qui pourrait accueillir un café porté par Nantes en commun, qui sont un peu notre base et un endroit où on puisse échanger sur le sujet et pouvoir travailler. Voilà. Et puis, ce qu'on aimerait effectivement, c'est que c'est également parler de cette assemblée citoyenne. La prochaine réunion, le 21 mai en ligne, il lui faut un maximum de monde pour pouvoir en parler. Toute personne qui se reconnaît dans ses vertus de la citoyenneté et d'écologie populaire est la bienvenue.
D'accord.
Voilà.
Oh, super. Et donc, la majorité de vos actualités, c'est plutôt sur Facebook, sur votre page Facebook ou...
Oui,
Facebook, le site,
et également sur le site nantencommun.org, sur lequel il y a nos propositions, mais également un blog sur lequel on fait nos communications. Mais via Facebook, on a déjà beaucoup, beaucoup
d'actualités.
D'informations.
Ouais, d'accord.
Ouais.
Ok, bon, bah, merci encore Régis pour toutes ces réponses. Et puis, bah, voilà, on n'attend plus que les mois à venir pour voir ce qu'il peut y avoir de nouveau.
Compte sur nous, Eva. Compte sur nous pour bouger, pour continuer à essayer de changer les choses. C'est plus qu'important maintenant. Et merci beaucoup pour cette interview et pour l'occasion de pouvoir s'exprimer.
Merci.
Merci beaucoup à Régis Contreau de nous avoir accordé cette interview.
Le masque et la prune.
Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous.
Humanité confinée, déconfinons les idées. Capsule de science par le Labo des Savoirs.
Je reçois Fanny Pagès. Bonjour Fanny.
Bonjour Maxime.
Voilà, alors on se reçoit mutuellement l'un chez l'autre. Alors je vais pas faire style, on se connaît pas parce que t'es ma petite cousine en fait.
En effet.
Je prends le temps de t'interviewer parce que j'étais à ta thèse et que c'était un moment incroyable où j'ai appris plein de choses passionnantes sur l'animal sur lequel t'as fait ta thèse sur l'oisin. Et l'oisin qui s'écrit d'une manière, parce que c'est un oiseau, il faut le dire, mais ça s'écrit d'une manière déjà absurde. C'est déjà le premier point absurde avec cet animal.
Ah, mais c'est-à-dire qu'au Scrabble, je pense qu'on peut faire pas mal de points, effectivement, avec l'oisin.
Comment ça s'écrit, oisin ?
C'est H-O-A-Z-I-N.
H-O-A-Z-I-N, incroyable, oisin, génial. Et est-ce que tu peux déjà, en préambule, énumérer quelques spécificités, parce que c'est un sujet qui est passionnant pour les biologistes et les naturalistes, l'oisin, parce qu'il a plein de choses complètement improbables.
Ouais, alors en fait, c'est un oiseau qui est déjà assez particulier, puisqu'il est végétarien, c'est-à-dire que c'est le seul oiseau qui ne mange que des feuilles. Il mange très peu de bourgeons, aucun fruit. C'est vraiment le seul oiseau qui est connu qui vraiment ne mange que des feuilles et qui a développé dans son système digestif quasiment les mêmes bactéries qu'on retrouve chez les vaches. Donc on ne sait pas comment elles sont apparues là, mais en tout cas, elles y sont.
Et il vit où, du coup ? Il faut l'imaginer perché dans des arbres en train de manger toute la journée des feuilles, mais dans quelle région du monde ?
Il vit en forêt amazonienne. Le long des cours d'eau, en fait, vraiment tout le temps dans les arbres, tout le temps perché.
Du coup, toi, tu n'as pas eu la chance, malheureusement, d'aller le voir sur le terrain. Il y a assez peu, finalement, d'exemplaires de cet oiseau dans les collections. Il faut dire que tu étais au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, pour faire cette thèse. Et donc, t'avais, malgré le fait d'être au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, tu avais finalement assez peu d'échantillons.
En fait, comme il vit dans les pays qui composent l'Amazonie, la forêt amazonienne, c'est déjà assez compliqué en termes géopolitiques là-bas en ce moment. Donc, pour aller faire des missions sur le terrain là-bas, c'est pas trop le moment. Encore moins en ce moment avec ce qui se passe dans le monde. Mais c'est vrai que dans les connexions du muséum, par exemple, il y avait seulement un oiseau monté, naturalisé, c'est-à-dire juste les plumes et la peau, et un squelette qui n'était pas complet. Et qui était disponible du coup en collection d'os démontés. Donc j'ai eu la chance en fait sur le projet où j'ai été recrutée pour faire ma thèse, qu'en fait l'équipe avait été 2 ans auparavant sur le terrain au Venezuela et ils avaient réussi à collecter des spécimens eux-mêmes. Donc en fait ils les ont vus vivants dans la nature, ils ont pu attester que c'était vraiment des oisins et les ramener du coup pour pouvoir les étudier pour ma thèse.
Oui, parce que finalement, les os, ils ont ramené il y a 150 ans et que, bon, il y a marqué oisin sur l'étiquette, mais que c'est des collections assez anciennes. Le laboratoire dans lequel t'es, c'était pas un laboratoire qui étudie directement les oiseaux. C'était quoi le nom de ce laboratoire ?
Non, en fait, je suis dans un laboratoire qui est vraiment axé sur l'anatomie comparée et fonctionnelle. Moi, j'étais dans l'équipe Funevol, c'est-à-dire Functional Evolution. Et en fait, enfin, c'est hyper intéressant d'être dans un laboratoire qui ne travaille pas justement focus sur l'ornithologie, puisqu'en fait, on a des collègues qui travaillent sur d'autres modèles, sur les lézards, sur les rhinocéros, sur les dinosaures, sur les éléphants, les enfants. Et en fait, ça permet de vraiment croiser les connaissances, puisqu'au final, l'anatomie comparée, c'est justement vraiment le but, c'est de comparer les espèces. Donc en fait, quand on voit que j'avais un problème sur les oiseaux, je demandais à mes collègues qui travaillaient sur les chiens et ils me disaient « Ah, mais moi j'ai vu un truc pareil sur une publique, j'ai lu sur les canidés ou sur, j'en sais rien, un truc qui est complètement à l'ouest par rapport aux oiseaux. » Mais en fait, c'est une richesse énorme.
Et c'est quoi le sujet de l'anatomie comparée, du coup, c'est de comprendre comment ça marche. Alors quand on va dans les galeries d'anatomie comparée, on se dit souvent que c'est pour classifier les espèces les unes par rapport aux autres, savoir qui est de la même famille que qui, les ranger. Mais l'anatomie comparée fonctionnelle, c'est pas pareil, c'est savoir vraiment comment fonctionne l'organisme et beaucoup les os, non ? Toi, t'as beaucoup travaillé sur les os.
Oui, en effet, il y a vraiment deux. Enfin, l'anatomie comparée en elle-même, c'est vraiment deux volets. Il y a le volet classification qui vraiment sert, comme tu disais, à classifier un peu les espèces. Et tu as aussi le volet qui est hyper fonctionnel. Et à ce moment-là, on regarde. Moi, j'ai focus sur les os, mais j'ai des collègues qui travaillent plus sur les muscles, par exemple, ou sur l'interaction des deux. Et c'est là que c'est intéressant, puisqu'en fait, on met en relation le squelette et vraiment les muscles, comment ça fonctionne, lequel est engagé dans quel mouvement, lequel met plus de force, et c'est vraiment là qu'on voit la complexité du monde vivant.
Et spécialement avec l'oisin, alors pour que tu aies un peu le temps de nous en parler un peu plus, donc il est ruminant, il ne mange que des feuilles. Et il a quoi d'autre comme caractéristique étrange ? Il a un chant très très bizarre, et il a d'autres particularités très bizarres, il a notamment un doigt quand il est petit.
C'est ça. En fait, les poussins oisins, on va dire, ont deux doigts fonctionnels sur les ailes. Et en fait, ils s'en servent pour grimper dans les arbres, vraiment, avec leurs griffes. C'est vraiment le seul oiseau vivant, puisque on sait que l'archéoptéryx avait des griffes également sur les ailes, mais lui, a priori, il les conservait à l'âge adulte. L'oisin a vraiment ses griffes qu'il perd ensuite à l'âge adulte. Les poussins s'en servent vraiment pour grimper dans les arbres, puisqu'en fait, ils vivent au-dessus des cours d'eau, donc les nids sont vraiment posés dans les branches au-dessus des cours d'eau. Et dès qu'ils sentent un prédateur, les adultes autour, qui sont très territoriaux, tapent dans les branches. Donc les poussins qui sont dans le nid le ressentent, et pour éviter le danger, ils plongent dans l'eau. Donc ils ont non seulement la faculté de savoir nager, avec une coordination quadrupède de leurs ailes, et en plus, ils sont capables de grimper dans les branches pour remonter dans le nid, seuls, vraiment sans aucune aide des parents.
Incroyable, parce que ça, c'est une espèce de preuve du passé dinosaurien des oiseaux, même si on ne sait pas très bien si c'est, d'une certaine manière, une nouvelle innovation biologique, quelque chose qui est apparu récemment, ou si c'est vraiment un caractère ancestral qui est gardé. Toi, ta thèse n'était pas tellement là-dessus, mais ça reste une question ouverte. Non ?
C'est une question qui est totalement ouverte, dans le sens où les phylogénies actuelles qui sont faites des oiseaux ne savent toujours pas où placer l'oisin avec certitude. Donc en fait, on ne sait pas s'il est vraiment à la base des oiseaux, à la base des oiseaux modernes. Actuellement, les théories penchent plutôt à dire qu'il est à la base des oiseaux modernes. Et donc, ce serait plutôt une réapparition du caractère. Mais pour l'instant, il n'y a aucun consensus scientifique sur ce point-là. Et c'est vraiment une question qui est laissée dans l'incertitude complète.
Et il a une autre caractéristique, c'est qu'il est très stressé comme oiseau. Et donc, du coup, on a cru pendant longtemps qu'il volait très très mal. Et ça, c'est le sujet de ta thèse, c'était de savoir, est-ce qu'il vole très très mal ?
Voilà, en fait, de toutes les observations naturalistes qu'il y a eu jusqu'ici de l'oisin, et quand je parle d'observations naturalistes, ça remonte plutôt dans les années 1800-1900, ça décrit un oiseau qui est posé à longueur de journée sur sa branche, et qui en fait ne s'envole que lorsqu'il est stressé. Donc un gros bruit ou un humain qui s'approche, ça provoque un stress. Et dans le stress, l'oiseau s'envole, et là il démontrait un vol. Les descriptions sont vraiment... Elles parlent d'un hélicoptère en train de se crasher. Enfin, c'est vraiment pas très, très joli à voir apparemment un oisin qui vole. Ça a été le but de ma thèse en fait. Ça a été d'essayer de comprendre d'après la forme des os, est-ce que cet oiseau est véritablement incapable de faire un vol, disons, harmonieux, ou est-ce qu'il en est capable, mais sous l'effet du stress, il panique et il se passe pas très bien le vol.
Ouais, donc est-ce qu'il en est capable ou est-ce qu'il fait pas d'effort ? En fait, c'était un peu la question. Est-ce que vraiment c'est volontairement qu'il est nul ? Et du coup, tu as réussi à comparer la forme des os, beaucoup des bras, avec toutes sortes d'oiseaux qui ont des vols différents. Mais il fallait aussi s'attaquer à une autre bizarrerie de son squelette, qui est aussi une de ses spécificités, non ?
C'est ça, en fait, comme cet oiseau est végétarien, en fait, il a besoin d'un très long processus de digestion, comme les vaches, en fait, qui passent leur temps à manger et à digérer. Lui, c'est exactement la même chose, sauf que pour effectuer cette action de digestion, il a besoin d'être posé, littéralement. Il ne faut pas qu'il y ait de force nécessaire en fait pour le maintenir sur une branche. Donc il a développé un sternum. C'est vraiment l'os de devant sur le poulet par exemple. Le sternum est déformé par rapport aux oiseaux classiques, on va dire, pour qu'en fait il puisse se poser. Il y a vraiment un rebord qui est fait sur le bréchet pour qu'il puisse poser la totalité de son corps sur la branche. Sans aucun effort.
Ventre, c'est une espèce d'énorme ventre comme ça qui pose directement sur la branche sans se poser sur ses pattes. C'est ça. C'est complètement incroyable. Et du coup, ça, toute la partie qui est devant là est soulevée. Et du coup, même l'os du bréchet là, qui normalement sert à rebondir pour les oiseaux quand ils volent, ça aussi c'est soudé à son.
C'est ça. Il a dû développer a priori vraiment une soudure de tous ses os de l'avant du corps pour pouvoir justement avoir la possibilité de poser tout son poids sur cet os là qui du coup doit être hyper solide pour pouvoir vraiment tenir à long terme.
C'est beaucoup d'efforts évolutifs pour pouvoir rien faire, en fait, pour pouvoir ne pas bouger pendant qu'on est en train de le digérer, ce qui est assez incroyable. Et alors, à quoi es-tu arrivé à la fin de ta thèse? Est-ce que c'est ses ailes le problème? Il a vraiment des ailes qui ne sont pas faites pour voler, quoi, qui ont des problèmes mécaniques de vol?
Alors, en fait, la première hypothèse a été effectivement que c'était la forme de ses ailes, donc vraiment de la totalité du bras qui pose problème. Et en fait, on s'est rendu compte que pas du tout, comparé à plein d'autres oiseaux qui font tout type de vol, même des oiseaux qui nagent, il a vraiment des ailes qui sont, disons, classiques. Le vrai enjeu, c'était plus au niveau des os du cou du bréchet, qui étaient, eux, soudés, puisqu'on sait que chez les oiseaux, chez tous les oiseaux, la fourchette, l'os qui justement permet de faire un espèce de type de ressort en fait à chaque battement d'aile et qui permet d'économiser de la force au fur et à mesure qu'on vole, lui, il est complètement soudé chez l'oisin et il ne peut vraiment pas bouger. Donc l'hypothèse principale, ça a été celle-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en étudiant chaque os séparément, en observant les lignes de fusion, vraiment en découpant chaque os, ces os-là n'ont pas des formes si différentes des autres oiseaux. C'est là que vraiment c'est posé la question de pourquoi cet oiseau ne pourrait pas voler si techniquement il a les os pour voler.
Et donc c'est peut-être plus un comportement social aussi. Il y a une dernière bizarrerie peut-être qu'on peut mettre en avant, c'est sa structure sociale. Pour un oiseau, c'est bizarre, non? Comment ils forment les groupes, les oiseaux?
Oui, c'est aussi une des particularités, une des nombreuses particularités de l'oisin, c'est qu'il est non seulement territorial, mais en plus il vit en groupes familiaux. C'est-à-dire qu'en principe, il y a souvent le couple reproducteur et il y a ce qu'on appelle des helpers, c'est-à-dire que les jeunes de l'année précédente ne quittent pas le groupe familial, mais ils vont plutôt aider à la reproduction et à l'élevage des petits de l'année suivante. Donc ça fait vraiment des groupes, ça a été reporté jusqu'à 12 oiseaux qui partagent le même territoire et qui vraiment interagissent entre eux et ont vraiment des comportements sociaux.
Et ça, c'est unique chez les oiseaux parce que sinon, les comportements sociaux, ça passe vite à des centaines et des milliers.
Non, ça existe aussi chez d'autres oiseaux, mais les oiseaux sociaux représentent moins de 3% des oiseaux connus. Donc ça reste quand même une particularité en plus à l'oiseau.
Bon, bah alors pour tous ceux qui voudraient se lancer dans la recherche sur le monde vivant et le monde animal, il reste encore plein de choses à découvrir, parce que si un animal aussi fascinant que celui-là reste encore si peu connu, il y avait beaucoup d'enthousiasme de la part des chercheurs qui suivaient ta thèse sur l'oisin. Toi, t'espères qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir? Tu penses qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur cet oiseau?
Bien sûr, il y a énormément de choses à découvrir. Une fois qu'on a accès aux spécimens, en fait, il y a des tas de questions qui commencent à se poser du fait de tout ce qu'on a commencé à découvrir. La locomotion quadrupède qui, par exemple, disparaît chez l'adulte. Il doit y avoir des tas de modifications au niveau du système nerveux ou même du système musculaire qui se mettent en place à un moment qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a vraiment une espèce d'adolescence chez les oiseaux? Ça a quasiment jamais été montré et ce serait hyper intéressant de vraiment chercher là-dessus.
L'adolescence des oiseaux, ça c'est vraiment un sujet qui tue. J'espère pouvoir lire là-dessus dans les années qui viennent. Bon, bah merci beaucoup Fanny, bon confinement.
Merci
et puis, bon
confinement.
Puis j'espère à bientôt, ouais.
Merci à toute l'équipe, évidemment. Vous retrouverez Le Masque et la Prune dès demain à 18h. Quant à nous, nous aurons la chance de vous retrouver mercredi prochain et en podcast sur le www.prune.net. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Restez sur Prune 92 FM. À la prochaine.
Le Masque et la Prune. C'est une capsule sonore à retrouver sur Prune chaque jour à 18h. Qu'il y aura des masques.